Oui, ce récit de la rencontre entre Jésus et la Cananéenne, avouez-le, est plutôt dérangeant. Parce qu'il nous montre une image de Jésus qui est vraiment sous un jour inhabituel. On a l'idée d'un Christ très accueillant, d'un Christ généreux, d'un Christ disponible, d'un Christ guérissant, tout le monde, ne refusant personne, ne faisant pas d'exclusion. Et voilà que cette pauvre femme s'adresse à Jésus pour lui demander qu'elle guérisse sa fille. Et Jésus, avouez-le, a quand même une attitude vraiment ignoble à son égard. Il commence par ne même pas lui répondre. Il ne la regarde même pas, il ne répond pas. Ensuite, elle insiste. Il dit « Moi, je ne veux pas m'occuper d'elle parce qu'elle n'est pas juive. Je ne suis venu que pour les brebis perdues du pays d'Israël. » Elle insiste. Ce coup-ci, il la traite de chienne, en lui disant « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les jeter aux chiens. » Avouez quand même que c'est très, très étonnant comme attitude de la part du Christ. C'est très éloigné de l'image qu'on en a. Et je dois dire que dans cette histoire, finalement, le personnage que je préfère, ce serait certainement la Cananéenne. Parce que c'est elle qui fait preuve de douceur, d'humilité. C'est elle qui pardonne l'agression du Christ. C'est elle qui, finalement, a toutes ces qualités que l'on aime tant, normalement, trouver dans le Christ. Alors, comment comprendre ce texte ? Je crois qu'en fait, il n'y a que deux solutions. Soit le Christ a eu raison de se comporter de la sorte, ou alors, à ce moment-là, il faut essayer d'en comprendre les raisons. Soit il a eu tort. Alors, cette deuxième hypothèse, d'imaginer que Jésus ait pu avoir tort, bon, elle n'est pas très orthodoxe, et ce n'est peut-être pas très habituel d'essayer de la défendre dans la théologie chrétienne, mais néanmoins, je crois que cette hypothèse ne doit pas être écartée a priori, et que même, au contraire, c'est peut-être la plus intéressante. Parce qu'on peut en effet penser, finalement, que le Christ, d'une certaine façon, a eu tort en ne voulant donner la bonne nouvelle qu'aux Juifs, mais il a fait preuve d'une grande qualité, c'est qu'il a changé. Au début, c'est vrai, il a refusé d'agir, mais finalement, il a agi quand même. Alors, en particulier dans ce domaine, à propos de cette phrase de Jésus qui dit « Je ne suis venu que pour les brebis perdues du pays d'Israël », certains pensent que Jésus n'a pas toujours eu l'idée que son message pouvait avoir une portée universelle. Et donc certains pensent qu'au départ, en tout cas, le Christ était bien dans l'idée que son message s'adressait aux Juifs et qu'il était pour les Juifs. Et puis, petit à petit, il va découvrir qu'en fin de compte, il faut aussi accueillir les païens parce que il n'y a pas que les Juifs qui sont forcément bons et qu'il peut y avoir des choses très bonnes ailleurs. Et que cette découverte, je dirais, de l'ouverture aux païens, ce serait précisément la Cananéenne qui l'aurait fait trouver à Jésus. Et d'une certaine façon, on assisterait là à une sorte de conversion du Christ. Le Christ qui, au départ, se croit uniquement destiné aux Juifs et rencontre là une femme païenne tellement extraordinaire qu'il se dit « mais c'est vrai en fin de compte ». Est-ce qu'il n'y aurait pas, en dehors du judaïsme aussi, des qualités essentielles ? Et plus profondément, on pourrait même aller encore un petit peu plus loin et se dire que, finalement, Jésus, peut-être même, a-t-il eu tort de traiter aussi méchamment et aussi, je dirais, irrespectueusement et d'une façon méprisante la Cananéenne ? Mais que finalement, il va quand même se remettre en cause, et finalement, il va quand même accueillir la Cananéenne. Alors bien sûr, l'idée que Jésus ait pu se tromper, ou que Jésus ait pu avoir tort, choque certains. Mais néanmoins, je me suis aperçu dans mon ministère pastoral que cette idée en rassure d'autres. Alors, vous verrez si ça vous convient ou pas, mais certains sont plutôt contents de cela, parce que cela donne une image plus humaine du Christ. Et finalement, l'image très divine de Jésus, qui depuis sa naissance aurait conscience qu'il est le Messie pour tous les païens, qui depuis toujours aurait une sorte de vérité infuse, et que jamais il n'aurait dévié, jamais il n'aurait fait la moindre erreur, jamais il ne se serait trompé, jamais il n'aurait dit un mot de travers à qui que ce soit, cette idée d'un Christ surhumain, c'est un Christ totalement divin, à quelque chose d'écrasant et de désespérant pour beaucoup de croyants. Et certains croyants, au contraire, aiment trouver dans le Christ des signes d'humanité, des signes de faiblesse même, peut-être. Et justement parce qu'à ce moment-là, on voit dans le Christ celui qui est l'image de nous-mêmes. Parce que nous passons notre temps à nous tromper. Nous passons notre temps à ne pas agir correctement avec les autres. Et alors, comment le Christ pourrait-il être un exemple pour nous si lui est totalement coupé, éloigné de ces réalités humaines qui sont les nôtres? Mais si au contraire, on peut imaginer que là, par exemple, Jésus a eu tort, oui, il a eu tort, il n'aurait pas dû dire ça, il aurait dû l'accueillir. Et à ce moment-là, on peut regarder de plus près l'histoire et se dire, bon, d'accord, Jésus a eu tort. Mais l'important, ce n'est pas d'avoir eu raison ou d'avoir eu tort à un certain moment. L'important, c'est la gestion de l'erreur. L'important, c'est comment est-ce que Jésus, finalement, a réussi à guérir la fille de la Cananéenne. Et peut-être que précisément, ce qui est là de remarquable, et à ce moment-là, une des leçons que pourrait nous donner ce texte, c'est de montrer que le Christ, lui, il a accepté de se remettre en cause. Il a accepté de changer. Il a accepté de reconnaître son erreur. Et ça n'est pas évident. Parce que nous, par contre, trop souvent, quand nous avons dit quelque chose, même si nous reconnaissons que c'est une erreur, nous voulons nous y tenir, parce que nous avons peur de perdre la face. Et nous disons, non, j'ai décidé cela, je m'y maintiens, je vais rester, c'est ce que j'ai dit, je veux rester dans cette idée. Et là, j'avoue que pour moi, ce n'est pas une preuve de faiblesse du Christ, mais vraiment une preuve de grandeur. Ce Jésus qui au début a dit non, je ne guérirai pas ta fille, et qui finalement le fera pour certaines raisons. Et je crois que c'est quelque chose d'assez essentiel, effectivement, de savoir ainsi se remettre en cause. Quant aux disciples, alors eux, ils sont clairement le contre-exemple. Les disciples, ils refusent de se laisser déranger. Les disciples, ils n'aiment pas cette étrangère. Et il dit à Jésus, renvoie-la. Jésus ne la renvoie pas. Il refuse de lui guérir sa fille, mais il lui parle quand même à un certain moment. Les disciples, oui, sont les contre-exemples, parce qu'il est vrai que les autres, les étrangers ou simplement les autres, sont forcément dérangeants. Et nous ne pouvons pas rester dans notre petit confort en excluant les autres. Et il faut être capable, comme le Christ, de se laisser convertir, de se laisser déranger dans notre attitude, dans notre foi et même dans nos convictions peut-être, de se laisser déranger. Et de comprendre que même parfois, ce peut être le plus petit, le plus méprisable, celui que nous n'attendions pas, qui peut être a raison et qui peut nous apporter la chose la plus essentielle de notre vie. Alors bien sûr, bon, il ne faudrait pas dire que forcément les étrangers, les méprisés ont toujours raison et que c'est toujours eux qui sont extraordinaires. Non, Jésus n'a pas écouté la Cananéenne simplement parce qu'elle est étrangère, en vous disant « Vous voyez, elle est étrangère, c'est merveilleux, donc elle a raison. » Mais Jésus a écouté cette Cananéenne parce que, par ailleurs, elle a fait preuve de qualités extraordinaires que j'ai évoquées au départ. Et sans doute y a-t-il aussi dans cette histoire-là quelque chose d'autre, une autre exhortation pour nous-mêmes dans l'attitude que nous pouvons avoir. Parce que finalement, c'est elle qui obtient le bien et le bon dans cette histoire. Et comment l'obtient-elle? Elle l'obtient par la douceur, par la gentillesse, par l'humilité. Et certainement, oui, je crois que ce sont ces valeurs qui peuvent transformer le monde. Oui, cette femme a été remarquable parce qu'elle aurait pu râler, revendiquer, se mettre en colère, insulter le Christ. Mais non, elle ne fait pas cela. Et elle obtient tout par la douceur, par la compréhension, par le pardon même, parce que oui, c'est vrai que le Christ l'a franchement insulté. Et c'est dans cette façon-là qu'elle arrive à obtenir la chose la plus essentielle, qui est la vie de sa fille. Avoir le courage en même temps aussi de demander, parce qu'elle a fait preuve d'une autre qualité, c'est sa persévérance, bien sûr. Elle est insistante. Elle répond à l'injure par la douceur et la bienveillance. Oui, certainement, il y a, si on la lit comme ça dans cette histoire, bien des exemples, aussi bien de la part du Christ que de la part de la Cananéenne. Mais bon, peut-être suis-je allé un petit peu vite dans l'idée que Jésus ait pu avoir tort et qu'il se serait converti. Et comme je vous l'ai dit, certains sont plutôt hostiles à cette idée et préfèrent garder l'idée d'un Christ qui ne s'est pas trompé. Alors essayons l'exercice. Essayons de voir, est-ce que Jésus aurait pu avoir raison de se comporter ainsi? Alors on peut peut-être essayer de trouver des raisons. Peut-être a-t-il refusé d'agir parce que il ne faut pas s'éparpiller. Oui, Jésus est bien là pour témoigner de la vie, est bien là pour guérir, pour aider. Mais néanmoins, peut-être qu'il dit, écoutez, moi, je ne peux pas aider tout le monde, et donc je me concentre pour l'instant sur les Juifs. Voilà, et c'est dans ce domaine-là que je vais faire mon action, parce que si je me m'éparpillais dans tous les sens, je finirais par ne plus rien faire. Peut-être faut-il effectivement se donner des priorités dans ses actions. Peut-être qu'on ne peut pas répondre d'une façon désordonnée à toutes les sollicitations, parce que sinon on ne ferait plus rien. Et peut-être qu'il y a dans nos vies, même si nous avons de bons et de grands principes, et même dans la charité, même dans l'amour que nous avons, peut-être y a-t-il la nécessité de faire des choix et d'avoir des stratégies d'efficacité, je dirais. Personne ne peut régler toute la misère du monde, et il faut le savoir. Alors nous n'avons donc pas, dans ce cas, à avoir honte. Si vous voulez croire que Jésus a raison, cela voudrait dire qu'il ne faut pas avoir honte, parfois, de refuser, puisque Jésus lui-même l'a fait, et qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde. Peut-être n'avons-nous pas non plus à nous sentir coupables lorsque parfois nous disons « je suis désolé, mais c'est non, je ne peux pas, parce que je ne peux pas tout faire ». Oui, peut-être que c'est une piste. Mais remarquons quand même que si Jésus refuse au départ, ce n'est pas par égoïsme. Ce n'est pas pour en disant « tu m'embêtes, j'ai autre chose à faire » ou « je veux garder mon pouvoir pour moi ». C'est pour pouvoir aider d'autres. Et que d'autre part, même si Jésus a refusé au départ, néanmoins, il n'a jamais cessé d'écouter la cananéenne. Même s'il ne lui répond pas, il n'a jamais cessé de l'écouter. Et il n'a pas refusé d'entrer en dialogue avec elle. Ce sont peut-être là, effectivement, quand même, des pistes essentielles. Une autre piste pourrait être une autre explication, je dirais, de cette attitude de Jésus concernant cette phrase « Je ne suis venu que pour les brebis perdues du pays d'Israël ». Cela, ça a souvent été dit, aurait été que Jésus, certes, faisait des guérisons, mais qu'il avait peur que ces guérisons soient mal comprises et qu'une femme païenne aurait risqué de ne voir dans la guérison qu'une guérison, et non pas quelque chose de plus profond. Et effectivement, toutes les guérisons du Christ sont un peu des paraboles, ce sont des signes aussi de l'aide spirituelle que Dieu nous donne, ce sont des signes de guérison intérieure. Or, cette femme, si elle n'était pas juive, si elle n'avait pas eu d'éducation religieuse, spirituelle, de connaissance de tout cela, elle aurait risqué de ne prendre le miracle que pour un miracle, et de croire, du coup, que Jésus ou que Dieu serait des sortes de distributeurs de bonnes œuvres, des distributeurs de chance, des distributeurs de guérison. Or, précisément, Dieu n'est pas là pour nous donner seulement des guérisons physiques. Dieu n'est pas là pour exaucer nos prières de demandes d'ordre matériel. Dieu est là pour autre chose. Et c'est dans ce sens que Jésus, peut-être, a-t-il dit « Non, 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 moi, je veux bien faire quelque chose, mais attention, il y a peut-être un danger à ce que le geste que je vais faire puisse être mal compris et mal interprété. » Et dans ce sens, il refuse. À ce moment-là, qu'est-ce que cela nous enseignerait? Cela nous enseignerait que l'activisme n'est pas la meilleure des choses, et qu'il ne faut pas toujours se précipiter pour agir, pour donner, pour faire, pour aider, mais qu'il faut toujours aussi se préoccuper de savoir comment va être interprété l'acte que l'on va faire. Et que l'aide immédiate est peut-être d'une chose à court terme positive, mais qu'il faut se demander comment cette personne va la comprendre et comment ça va l'inciter ensuite à agir dans le monde. Et si jamais Jésus avait guéri la fille, peut-être que la cananéenne serait tombée dans une sorte de rapport païen et idolâtre à Dieu, en se disant « Dieu, c'est quelqu'un à qui je réclame et il me fait dégringoler en échange des biens matériels et des chances concrètes et physiques ». Or, justement, le Dieu de l'Évangile n'est pas un Dieu idolâtres de ce type-là. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de défendre le Christ. J'avoue que je n'arrive pas à trouver d'autres explications. Alors, est-ce que celles-là vous convainquent ? Est-ce que celles-là vous satisfont ? Peut-être, et si c'est le cas, tant mieux. Mais dans tous les cas, je dois avouer que même si cela peut sauver un petit peu l'image de Jésus, néanmoins, je ne trouve aucune explication à l'attitude méprisante et insultante du Christ. Et j'avoue que là, j'ai beau chercher, je ne trouve aucune justification à cela. Alors peut-être que vous en avez, auquel cas tant mieux, mais vraiment non, je suis désolé, je veux bien qu'on refuse de faire quelque chose, mais si vous refusez de faire quelque chose, par pitié, ne traitez pas de chien celui auquel vous refusez de faire quelque chose. Alors autrement dit, je crois que dans tous les cas, ce qu'il faut dire, même si Jésus a eu raison ou a eu tort, faisons l'impasse sur ce point. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que Jésus, finalement, a bien fait quand même la guérison de la fille. C'est-à-dire que finalement, il a trouvé des raisons majeures de remettre son jugement en cause. Qu'il ait eu raison, qu'il ait eu tort au départ, n'empêche qu'il change d'avis. Et en fin de compte, il voudra bien la guérir. Et ça, c'est essentiel. Parce que cela nous montre que, oui, on peut avoir des principes, on peut avoir des stratégies, mais il est encore plus essentiel d'avoir de la souplesse et de l'humanité, et de comprendre qu'il y a des cas particuliers, en quelque sorte, et qu'il faut, malgré ces grands principes, accueillir la réalité humaine, et toujours se méfier des filtres, des catégories générales, des grands principes généraux que nous avons, des jugements globaux sur telle ou telle catégorie de gens, et que nous imposerions une sorte de grille de lecture des gens avant même de savoir qui est en dessous. Et finalement, il faut savoir aller au-delà de ça. Et c'est ce que le Christ va faire. Et là, je crois que c'est une incitation absolument essentielle et fondamentale. Et alors, pourquoi le Christ, finalement, a-t-il accepté d'agir ? Parce que, nous dit le texte, il a trouvé chez cette femme une foi exemplaire. Il dit, ta femme, ta foi est grande, qu'il soit fait selon ce que tu veux. Et quelle était cette foi extraordinaire de la femme ? La première idée, c'est de penser, elle a cru vraiment que Jésus pourrait guérir sa fille. Mauvaise réponse. Depuis le départ, elle croit que Jésus peut guérir la fille. Et elle le dit. Et ce n'est pas pour ça que Jésus l'a guérie. Il a fallu attendre bien d'autres choses pour que Jésus accepte. D'autres disent, elle a dit au début, Seigneur, elle a dit fils de David. Alors voilà, elle reconnaît en Jésus le Messie. Mauvaise réponse, parce que ça aussi c'est au début qu'elle le dit, et bien qu'elle dise ça, Jésus lui refuse et l'envoie balader, et donc Jésus est absolument indifférent à ce genre de choses. La foi de la Cananéenne, ce n'était pas une foi dogmatique, elle ne croyait pas dans la Trinité, dans le Jésus fils de Dieu, elle ne croyait pas dans l'Église, elle ne pratiquait pas. Cette foi que Jésus admire n'était rien de tout ce que nous appelons, en fait, nous, foi aujourd'hui, il faut bien le dire. Alors, pourquoi a-t-elle accepté ? Y a-t-il accepté ? Il accepte lorsque elle dit cette phrase, « Oui, mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et peut-être, effectivement, est-ce ça la justesse extraordinaire de la foi de cette femme ? C'est son humilité. C'est qu'elle ne réclame pas les choses au Christ ou à Dieu comme si elles lui étaient dues, mais elle les prend comme des grâces. Elle ne dit pas, mais enfin c'est injuste, quand même tu pourrais bien me donner ça aussi, et pourquoi à moi je n'aurais pas ci et que les autres l'ont ? Elle ne revendique rien. Elle reconnaît seulement, d'abord qu'elle a besoin de Dieu, et d'autre part qu'elle est prête à recevoir ce qu'elle ne mérite pas comme une grâce, comme un cadeau, comme une chose extraordinaire. Première qualité. Et deuxième qualité, je l'ai déjà un peu invoquée, elle insiste. Sa persévérance est extraordinaire. Deux fois, elle se fait renvoyer dans ses buts, et trois fois, elle réclame. Et chaque fois, elle revient. Et peut-être là, est-ce aussi la justesse de sa foi. C'est dans le mélange des deux. À la fois, se savoir pécheur et misérable, savoir que l'on ne mérite rien, mais en même temps savoir désirer ardemment et chercher avec conviction, persévérance et force le salut de Dieu. Ne pas se décourager, ne pas considérer que sous prétexte que l'on n'est rien, on n'aura jamais rien, mais croire que c'est possible et qu'on peut avoir quelque chose. Parce qu'en effet, cette histoire, finalement, oui, c'est bien une parabole de la quête spirituelle. Nous recherchons Dieu, nous voulons son salut. Et cet enfant dont il est question, c'est quel enjeu ? L'enjeu de l'enfant dans la Bible, c'est celui de la fécondité, de savoir est-ce que notre vie s'arrête à nous-mêmes ou est-ce qu'il y a quelque chose de nous qui est donné au monde, quelque chose qui dépasse notre propre existence purement limitée. Est-ce que nous sommes capables de donner au monde et finalement de nous survivre et d'aller vers les autres dans l'éternité d'une certaine façon ? Et si nous voulons que notre vie soit au-delà de nous-mêmes et qu'elle ait une certaine fécondité, il faut le vouloir. Il faut se bagarrer. Il faut s'en donner les moyens. Et en même temps, il faut savoir que l'on ne trouvera pas cela en soi-même, mais qu'il faut s'adresser à Dieu lui-même ou au Christ, parce que lui peut nous donner cela. Comprendre que le sens de notre vie, il faut à la fois le vouloir de toutes ses forces et en même temps, nous ne pouvons que le recevoir. Et du coup, si on prend cette histoire un peu comme une parabole de notre relation à Dieu, peut-être que cela expliquerait ce point obscur de ce Jésus qui refuse de répondre. Parce que, en fait, ce point obscur qui résiste à toutes les explications. Parce que finalement, effectivement, il nous arrive souvent que nous ayons l'impression que nous nous adressons à Dieu et qu'il ne répond pas. Ce n'est pas que Dieu nous méprise, évidemment, ce n'est pas qu'il ne veuille pas nous écouter. C'est comme dans ce psaume 31 que je vous ai lu tout à l'heure. Je criais à Dieu, je croyais qu'il n'était pas là, je pensais qu'il était absent. Pourtant, dit le psalmiste, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Et c'est bien là cette attitude extraordinaire de ce Christ qui est là et peut-être l'image de Dieu et de nous-mêmes qui prions Dieu. Et parfois, nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas, que Dieu ne fait rien pour nous, que notre prière est inefficace. Alors, sinon, ce n'est pas une méchanceté de Dieu, c'est comme ça. Sans doute que c'est de notre faute, je ne sais pas. Enfin, c'est comme ça en tout cas. C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication à donner, c'est comme ça. Mais là, ce que ce texte nous dit, c'est que néanmoins, même si nous croyons que Dieu ne nous entend pas, néanmoins, toujours, il nous entend et qu'il nous écoute. Parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, Jésus ne répond pas à la cananéenne, mais il l'écoute toujours. Donc Dieu toujours est là pour nous écouter. Et même si nous croyons que Dieu ne nous répond pas, il ne faut pas se décourager. Il faut au contraire insister. Il faut faire preuve de persévérance. Si nous n'obtenons pas tout de suite de la part de Dieu, si Dieu nous semble indifférent, néanmoins, je crois que Dieu nous entend et que nous devons toujours persévérer dans la quête de la prière, dans la recherche de Dieu, dans la recherche du dialogue, discuter avec Dieu, parler avec lui, essayer de comprendre, de lui dire ce que nous ressentons et d'avoir cette grande humilité qui est celle de cette cananéenne dans l'attitude de celle qui reçoit tout mais qui sait qu'on ne lui doit rien. Oui, c'est ça la foi essentielle, l'attitude juste, très très juste, du bon croyant par rapport à Dieu, qui ne fait pas état de ses bonnes œuvres, de ses mérites pour obtenir des choses, mais qui est à la fois dans la conviction, dans la force, qui se donne les moyens de ce qu'il veut et qui néanmoins reste toujours dans cette humilité par rapport à Dieu, en sachant que Dieu ne nous doit rien, mais qu'il peut tout nous donner. Dieu nous donnera la vie. Il peut donner la vie qui est même bien au-delà de notre propre existence, la vie qui est celle de nos enfants spirituels, la vie de notre fécondité éternelle. Amen.